Une proposition de loi portant organisation du référendum en RDC vient d'être initiée par des députés nationaux de la majorité présidentielle. Selon ses auteurs, ce texte vise à doter la RDC d'un cadre juridique dans ces domaines. En réaction, l'opposition dénonce une nouvelle manœuvre pour permettre au président Kabila de rester au pouvoir au-delà de 2016. Quelle analyse faire de cette initiative? Nous en parlons avec Lucien Kasongo, il est député national de la majorité présidentielle et cadre du PPRD. Il est l'un des initiateurs de cette proposition de loi. Bonsoir, honorable Lucien Kasongo.
Bonsoir, monsieur le journaliste.
Fabien Moutombe, il est député national de l'opposition et membre du groupe parlementaire UDPS allié à l'Assemblée nationale. Bonsoir, honorable Fabien Moutombe.
Bonsoir et bonsoir aussi aux auditeurs de la radio Okapi.
Et professeur Bob Kabamba, il est professeur à l'Université de Liège en Belgique et coordonnateur de la cellule d'appui politologique en Afrique centrale. Bonsoir, professeur Bob Kabamba.
Bonsoir, monsieur Héron, et à toutes les auditrices et les auditeurs.
Bienvenue à tous dans cette émission.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions en appelant au 081 890 66 78 ou nous écrire par SMS au 081 051 57 78 et par mail, écrivez-nous à tech@radiookapi.net.
Une proposition de loi portant organisation du référendum en RDC est initiée par le député national Lucien Kasongo Modiavita et son collègue Simplice Ilunga, nommé récemment vice-ministre au transport et voies de communication. Cette proposition de loi portant organisation du référendum transmise au gouvernement par les bureaux de l'Assemblée nationale a été confiée depuis le 22 septembre dernier au vice-premier ministre Évariste Boshab par le premier ministre Augustin Matata Ponyo pour observation à lui transmettre. Mais déjà, certains politiciens de l'opposition dénoncent cette démarche qui viserait l'organisation du référendum pour obtenir les glissements du mandat présidentiel. Allégation qui rejette l'un des initiateurs de cette proposition de loi. Lucien Kasongo Modiavita réagit au micro d'Innocent Olenga.
Le but poursuivi, ce n'est pas d'organiser le référendum constitutionnel. Le but poursuivi, c'est de mettre un cadre juridique approprié en matière de référendum en République démocratique du Congo. Dans tous les pays du monde, il y a la loi référendaire. C'est ainsi que la République démocratique du Congo, en tant qu'un État démocratique comme les autres pays, doit avoir une loi permanente qui organise le référendum dans ce pays. Prenez le soin de parcourir cette proposition de loi, ni de loin, ni de près, une intention quelconque nous a animés. Nous voulons mettre à la disposition de la République une loi référendaire. Un point, un trait, la procédure qu'il faut suivre pour arriver à l'organisation du référendum. Et il n'y a que ça comme démarche que nous poursuivons. Ayez le temps de parcourir notre proposition de loi. Du début à la fin, vous allez vous rendre compte qu'il n'y a aucune mauvaise intention. Au contraire, la République va se retrouver avec cette loi parce que nous avons un vide juridique.
Lucien Kasongo, je rappelle que vous êtes député national de la majorité présidentielle et cadre du PPRD. Vous êtes l'un des initiateurs de cette proposition de loi sur l'organisation du référendum en RDC. Et qu'est-ce qui motive votre démarche?
Merci, monsieur le journaliste. Ce qui motive notre démarche, c'est la constitution qui nous donne ce pouvoir. D'entrée de jeu, à l'article 5 de la constitution, à son troisième alinéa, il est demandé aux législateurs que nous sommes de prendre une loi qui organise les élections et le référendum depuis 2006. Seule la loi électorale a été édictée, élaborée et elle est en vigueur dans notre pays. Pourtant, cet article à deux aspects. Le premier aspect, la loi électorale, et le second aspect, la loi référendaire. C'est ainsi que, comme la Constitution prévoit certaines matières, à partir de l'article 2, nous avons déjà l'alinéa 3 qui parle de la capitale de la République démocratique du Congo, qui est la ville de Kinshasa. Pour transférer la capitale à un autre endroit, il faut recourir au référendum. L'article 214 parle également de faire recours au référendum toutes les fois que la République démocratique du Congo aura besoin soit de céder une partie de son territoire national, soit de faire l'échange de son territoire national avec un autre État, ou encore aura besoin de faire la jonction de son territoire avec le territoire de notre État. Et à l'article 218, il est également prévu de faire recours au référendum lorsqu'on veut procéder à la modification de la Constitution. Et cet article a des alternatives. Soit on recourt au référendum, soit on recourt au Congrès, comme c'était le cas en 2011. Et l'objectif que nous poursuivons, nous nous sommes rendus compte qu'il y a un vide en matière référendaire. Pourtant, la Constitution que nous respectons tous, qui est à la fois respectée par la majorité et l'opposition, prévoit les matières pour lesquelles le recours à la population est nécessaire pour se prononcer. C'est ainsi que, au lieu d'avoir une loi qui sera édictée les jours qu'on aura besoin d'organiser le référendum, cette loi sera taillée sur mesure, parce que ça sera pour une cause de référendum qui se présenterait. C'est ainsi que nous, en tant que législateurs, qui légiférons pour le futur, nous avons voulu, comme il n'y a aucun besoin d'organiser le référendum aujourd'hui, nous voulons mettre à la disposition de la République une loi qui organiserait le référendum dans notre pays, qui soit permanente, qui organiserait les élections dans notre pays. Le référendum de 2005 a été organisé sur base d'une loi temporaire qui était circonstancielle, qui n'avait existé que pour la raison du référendum de la Constitution en vigueur dans notre pays. Après cette élection, elle était tombée caduque.
Honorable Lucquin, vous avez cité des cas de figure, notamment le transfert, n'est-ce pas, de la capitale, l'échange de territoires ou faire jonction avec un autre territoire, la révision de la Constitution. On dit que les faits précèdent les droits. À votre avis, quelle est la situation actuelle, n'est-ce pas, qui nécessite l'élaboration d'une telle loi?
La situation actuelle, c'est la Constitution qui prévoit les cas de figure. Il n'y a pas un besoin aujourd'hui pour organiser le référendum, mais la loi permanente doit exister. Dans tout le pays du monde, petit ou grand soit-il, il y a la loi référendaire, là où on organise le référendum. Pour élaborer cette loi, cette proposition de loi, nous ne sommes pas limités seulement à la loi de 2005. Nous avons également fait recours au droit comparé. Nous avons lu la loi référendaire de France, nous avons lu la loi référendaire de Grèce, nous avons lu la loi référendaire de l'Italie. C'est pour dire qu'on ne peut pas se limiter seulement à voir ce qu'on a chez soi, il faut aussi voir ce qui se passe ailleurs. Tout le pays qui organise les référendums ont les lois permanentes en matière du référendum.
Honorable Lucquin, une certaine opinion reproche à la majorité présidentielle de prendre souvent des initiatives en rapport soit avec le processus électoral, soit avec la révision de la Constitution, et souvent dans un contexte électoral. Honorable, les rapports avec le processus électoral, ce processus électoral en cours, n'est-il pas les facteurs qui motivent votre démarche?
La loi portant organisation du référendum n'a ni de loin ni de près en rapport avec les élections. C'est une loi que nous voulons mettre parce que si aujourd'hui, en 2015, on n'a pas besoin d'organiser les référendums, en 2030, en 2050, en 2100, en 2200, même quand nous ne serons plus là, cette loi va aider la République parce qu'il y aura un jour besoin d'organiser le référendum prévu par la Constitution.
Et le lien avec la révision de la Constitution, même si vous ne le dites pas clairement dans votre proposition de loi, cette loi ne va-t-elle pas planter les décors d'une éventuelle révision de la Constitution? Est-ce qu'elle ne va pas préparer les lits à une éventuelle révision de la Constitution?
Je vous ai dit d'emblée, d'entrée de jeu, que la Constitution a déjà été modifiée. Est-ce que c'était par référendum ou par une autre procédure? Cela ne nous intéresse ni même pas, parce qu'il y a des modalités pour parvenir à la révision constitutionnelle, mais ici, il y a deux matières. Le premier cas, à l'article 2, en ce qui concerne le transfert de la capitale, et l'article 214, en ce qui concerne la session, là où il n'y a aucune possibilité à part le référendum. Pour la révision constitutionnelle, il y a des possibilités. Mais pour les deux cas de figure, il n'y a pas une autre voie à part le référendum.
Et pourquoi c'est souvent à la veille des élections que ce genre d'initiatives sont prises?
Je suis surpris que vous puissiez me parler des élections aujourd'hui. La loi référendaire n'a rien à faire avec les élections. Les élections, c'est autre chose. Ici, je vous explique les mobiles. Il y a un vide, il y a l'absence d'une loi. Une loi qui pourra
servir la République. Les contextes, nous sommes à la veille des élections. Les contextes là ne vous disent rien.
Pour le député, dans la Constitution, il y a une seule loi dont l'échéance est prévue par les constituants. C'est le budget de l'État qui doit être adopté à chaque session de septembre et une fois par an. Pour les autres lois, il n'y a pas le timing.
Merci.
Même à la veille de la fin de la législature, on peut initier une loi qui sera même votée par la législature prochaine.
Merci Fabien Moutombe, député national de l'opposition et membre du groupe parlementaire UDPS allié à l'Assemblée nationale. Une loi qui vise à combler les vides juridiques dans le domaine du référendum, n'est-ce pas une bonne idée?
D'abord, je voudrais remercier les agents qui ont mis les différentes lettres, les différents documents sur la place publique. On ne peut pas se cacher derrière un doigt. D'entrée de jeu, je voudrais tout simplement vous dire que une loi, pour qu'elle soit efficace, elle doit répondre à trois thématiques. Première thématique, elle doit être de portée générale. Deuxième thématique, elle doit absolument rejoindre l'opportunité. Troisième élément, elle doit être appliquée à tout le monde. Mais le problème avec cette loi, c'est au niveau de l'opportunité. Nous sommes dans un contexte où il y a des gens qui ont voulu carrément modifier ou changer la Constitution, réviser l'article 218. Nous sommes dans un contexte où, au mois de janvier, il y a eu mort d'homme, où on a tenté d'initier, d'introduire les recensements comme étant un prérequis en vue d'organiser les élections. Nous sommes dans un contexte où on a créé l'ONIP. Bref, nous sommes dans un contexte de méfiance. Parlant du référendum, en 2006, on a organisé les référendums
2005.
Sur base de quels documents? Est-ce que ces documents-là, est-ce que ces documents-là a été abrogé? Premier point. Mais maintenant, parlant du référendum, le référendum, c'est un mécanisme par lequel on contacte le peuple pour que le peuple s'exprime sur trois problèmes qui sont coulés dans la Constitution. Et ces problèmes sont réglés à l'article 2, l'article 214, l'article 218. Très bien. L'article 2. On nous dit on peut aller au référendum lorsqu'il va falloir changer de capitale. Est-ce que, dites-moi en toute sincérité, et même les auditeurs qui sont en train de nous suivre, est-ce que nous voulons transférer notre capitale, oui ou non? Non, le besoin ne se fait même pas sentir. Des deux. On vous dit à travers l'article 214 que cela est applicable dans la mesure où nous voulons céder une portion de notre territoire. Est-ce que, à la veille des élections, est-ce que aujourd'hui il y a opportunité de céder une partie de notre territoire? Non. L'article 218. C'est là où mon co-débatteur n'a pas insisté. L'article 218 parle de la révision constitutionnelle. Donc, même si nous nous cachons, on ne peut pas se cacher derrière un toit, l'objectif principal, c'est cet élément-là, la révision de la Constitution, en vue d'obtenir soit un glissement, ou à la limite, permettre à l'actuel président d'aller débriguer encore un troisième mandat. Honorable. Je voudrais, permettez, laissez-moi un peu, ne me coupez pas. Bon, vous allez remarquer la célérité avec laquelle ce dossier est traité. Vous allez comprendre qu'il y a anguille sous roche.
Alors qu'il y a, il y a des lois qui traînent encore au bureau de l'Assemblée nationale.
Puisque le problème du référendum lié à la révision constitutionnelle, il se pose au niveau du Congo-Brazzaville. N'est-ce pas? Vous avez vu vous-même, hier, plus de 300 000 personnes sont descendues dans la rue pour crier non.
Honorable Fabien.
Le président de la République, je parle du président de la République en tant qu'institution. Le président de la République a séjourné au Congo-Brazza les 19 et le 20. Le 21, le président de l'Assemblée nationale va diriger le courrier au Premier ministre.
Et vous établissez un lien avec cette démarche.
Un jour après, le Premier ministre envoie chez le vice-premier ministre chargé de l'administration du territoire et lui, immédiatement, le 22, je crois, il va dispatcher ça.
Donc, il y a un lien.
Il va dispatcher ça dans certains ministères. Je suis content quand les collègues disent que cette loi est d'une portée générale. Vous n'avez qu'à voir la réaction ou les réactions des gens. Vous n'avez qu'à voir la sensibilisation faite par l'opposition vis-à-vis des fonctionnaires.
Honorable Fabien, l'honorable Luquin reconnaît qu'il n'y a pas besoin aujourd'hui, n'est-ce pas? Il n'existe pas le besoin d'organiser un référendum. Il l'a reconnu. Mais il estime qu'il faut doter les pays d'un cadre juridique sur l'organisation du référendum, un cadre qui n'existe pas au pays.
Chat échaudé craint l'eau froide. Vous allez comprendre que dans l'entendement de nos amis de la majorité, c'est le troisième point qui les intéresse. Et ça, je voudrais vous dire, c'est très dangereux, excessivement dangereux, d'aborder ces problèmes pendant cette période, puisque le match a déjà commencé.
Est-ce que vous avez eu l'occasion de parcourir ces textes?
Permettez. 2015.
Honorable Fabien, lire ces textes.
Je vais répondre à cette question. 2015-2016, ce sont les années électorales. Nos amis, comme ils avaient fait en 2011, ils voudraient changer les règlements des jeux pendant le match. Le match a déjà commencé.
Merci.
On ne peut pas toucher à ça. Mais maintenant, lorsque vous me dites que si j'ai déjà lu cette proposition de loi, mais enfin, moi j'ai lu les documents au même moment que tous les Congolais. Nous étions surpris, nous avons vu ces documents.
Même vous,
et
députés.
Même nous, députés. Et nous avons discuté, et là je vous dis, nous avons déjà pris des dispositions pratique.
Merci, professeur Bob Kabamba, professeur à l'Université de Liège en Belgique et coordonnateur de la cellule d'appui politologique en Afrique centrale. Une proposition de loi visant à doter les pays d'un cadre juridique dans les domaines d'organisation du référendum. Comment vous analysez cette initiative?
Merci beaucoup, monsieur le journaliste, par rapport à l'invitation et aussi par rapport au débat. Je commencerai d'abord par saluer mes co-débatteurs ainsi que les auditeurs, comme je l'ai fait tout à l'heure. Alors ici, sur cette question-là, il y a deux choses qui doivent être soulignées. Il y a la question de la pertinence, il y a la question de l'opportunité. Quand on essaie de répondre à votre question en fonction de ces deux points, on peut dire que la pertinence, oui, il y a une pertinence pour pouvoir avoir une loi référendaire. Effectivement, dans toute une série de démocraties, dans toute une série de pays, il y a tout simplement une loi qui essaie d'encadrer ce qu'on appelle le processus de consultation populaire, c'est-à-dire le processus de consultation populaire qui ne concerne pas uniquement des articles qui sont prévus par la Constitution. Il y a des questions de débat qui sont d'actualité, qui peuvent être l'objet justement d'un référendum populaire. Je peux donner plusieurs exemples. Il y a par exemple la question du mariage entre personnes de même sexe. Est-ce que les Congolais sont prêts à accepter le mariage de personnes de même sexe ou pas, avant de commencer de toute une série de procédures? Il y a aussi des questions liées à des questions de société sur lesquelles il arrive à avoir une espèce de consultation populaire, et ça se remarque aussi dans toutes les démocraties. C'est une façon de ce qu'on appelle celle de pouvoir associer la population aux questions de fond et aux questions qui font débat. L'autre, la deuxième question, ça concerne la question de l'opportunité. L'opportunité, effectivement, de pouvoir arriver à lui proposer une proposition de loi dans le contexte actuel. Et quand on dit contexte actuel, bien entendu, ça porte à suspicion. À suspicion à plusieurs niveaux. Quand on parle effectivement référendum, tout de suite on commence à penser à la Constitution, on commence à penser à des glissements, on commence à penser à la pérennisation du régime tel que l'on connaît actuellement. Néanmoins, sur cette question d'opportunité, je pense qu'il faut relativiser. La question liée à la révision de la Constitution, tout ça est déjà réglé par la Constitution elle-même. Elle a déjà réglé la question de la révision d'une Constitution, c'est déjà réglé au niveau de la Constitution. Mais lorsque l'on parle de référendum par rapport à une Constitution, ça veut dire à ce moment-là que nous allons dans un autre processus qui n'est pas un processus qui est régulé par la Constitution actuelle. Ça veut dire que la Constitution actuelle ne peut pas réguler quelque chose qui va la changer. Quand je dis la changer, ça veut dire qu'elle n'existe plus, que l'on doit avoir une nouvelle Constitution. Et je crois que c'est là où se situe le débat. Et donc, en résumé, pertinence, oui, il y a une pertinence pour pouvoir arriver à avoir une loi qui organise le référendum, au-delà même de la question liée aux questions sociales, aux articles dont fait référence l'honorable qui a fait la proposition de loi. Il y a aussi d'autres aspects. Vous vous souvenez qu'il y a déjà eu des débats, notamment dans la province de Katanga, où on parle de pouvoir, lorsqu'on parle de découpage, on parle aussi qu'on peut organiser un référendum dans la province de Katanga pour réclamer que le Katanga soit réunifié après le découpage. Et donc tout ça, normalement, tous ces processus doivent être encadrés par des normes juridiques qui soient très claires. Et je voudrais vraiment, vraiment insister sur la question de l'opportunité en mettant bien en exergue la question qu'on ne mélange pas. Je pense qu'il ne faut pas mélanger la question de la révision constitutionnelle qui concerne la révision par voie référendaire, c'est-à-dire qu'on révise certains articles qui peuvent être révisés par voie référendaire ou par voie de congrès, et un changement de constitution qui nécessite nécessairement d'avoir une nouvelle loi qui ne tient pas compte de la constitution actuelle. C'est là que je pense qu'il y a une certaine confusion et qu'il faut bien cerner le texte tel qu'il est proposé pour que ce texte-là ne soit pas perçu comme un texte qui va commencer à être un soubassement d'un quelconque changement de constitution. Et là, ce serait complètement illégal, puisque ce texte sera adopté sur base de la constitution actuelle. Et donc, je pense que sur la question de l'opportunité, c'est l'apôtre Olem, effectivement, moi j'aurais aimé que l'honorable qui a proposé cette proposition le fasse en début de la législature, et je pense que là, ça n'aurait même pas posé un problème. Je pense même que toute l'opposition aurait même accepté de pouvoir apporter son soutien à ce moment-là par rapport à un tel sujet. Je voudrais même poser la question à l'honorable. Est-ce que, par exemple, la question sociale, par exemple, bêtement, ce que j'ai donné comme exemple, est-ce que les Congolais veulent mariage entre personnes de même sexe? Ça, je pense que ça doit être répondu par voie de référendaire pour savoir si, effectivement, ça peut s'organiser ou pas. Or, pour organiser un tel référendum, une telle consultation populaire, il faut qu'il y ait un cadre juridique qui puisse donc l'accompagner. Et je pense que l'honorable gagnerait de manière très claire à pouvoir élargir, en fait, son cadre référendaire, non pas uniquement sur base des articles de la Constitution, qui puissent les élargir sur les questions des provinces, sur les questions sociales, sur toute une série d'autres questions qui sont de la société pour lesquelles il y a besoin de pouvoir consulter la population pour que la population apporte ses réponses. Je peux donner plusieurs exemples au niveau international où il y a eu des référendums qui ont été organisés sur des questions sociales. Par exemple aussi en Suisse, on a organisé un référendum pour savoir si on devait accepter que les réfugiés qui sont là depuis plusieurs années puissent arriver à avoir la nationalité suisse, etc. Ce sont un système démocratique sur lequel il y a lieu de pouvoir légiférer.
Merci pour ce honorable Lucien Kasongo. Il y a une question qui vous est adressée, elle vient de Kinshasa.
Mon nom, c'est Blanchard Loana, j'appelle depuis la ville de Kinshasa. En RDC, la population éprouve de très nombreuses difficultés que nos députés devraient prioritairement chercher à faire des propositions de loi. Par exemple, améliorer ne fût-ce que le secteur de l'eau potable que nous manquons de temps en temps. Est-ce que la proposition de loi concernant le référendum prime-t-elle sur les difficultés qu'éprouve la population actuellement?
Oui, honorable Lucien Kassongo.
Je voulais répondre d'emblée à cette question, monsieur le journaliste. Il y a une loi sur les ressources en eau qui est en examen au Parlement. Je voulais dire à celui qui vient de poser la question qu'il y a déjà une loi sous examen au Parlement qui doit régler de ces questions-là.
Il n'y a pas que cette loi-là, il y a beaucoup de lois importantes, n'est-ce pas, pour le fonctionnement du pays, mais qui traînent au bureau si de l'Assemblée nationale.
Prenez le calendrier.
Pourquoi on semble donner priorité à votre proposition de loi, alors que vous-même vous reconnaissez que les besoins, pour le moment, n'existaient pas?
On n'a pas donné priorité, monsieur le journaliste, à ma proposition de loi. J'ai toute une série de correspondances échangées au sujet de cette proposition de loi. Nous l'avons déposé pour la première fois le 18 mai 2015. On l'avait transmise, cette proposition, au bureau d'études. La lettre, c'est le président sortant, le bureau vice-président sortant, Mono Simba, qui avait transmis les dossiers au bureau d'études. Le bureau d'études avait fait son examen de cette proposition de loi. Les recommandations ont été faites. Et c'est la lettre du bureau d'études adressée au président de l'Assemblée nationale.
Et tout cela dans la discrétion totale, c'est comme ça que ça se passe? Parce
oui.
Que l'honorable Fabien Mouton dit qu'il n'était pas au courant de tout ça.
C'est comme ça que ça se passe. La loi devient publique lorsque la conférence de présidents accepte de programmer ça au cours d'une session. Et il y a toute une procédure pour que la loi soit programmée. Devant une proposition, on ne se limite pas seulement au Parlement. Je suis à l'article 135 de notre règlement intérieur. Je ne sais pas si mon collègue a le règlement avec lui. Il est dit ceci. Les propositions de loi sont déposées au bureau de l'Assemblée nationale. Elles sont, avant délibération et adoption, notifiées pour information au gouvernement qui dresse dans un délai de 15 jours suivant leur transmission.
On ne passe ces niveaux-là.
Honorable Fabien, vous allez parler. C'est Lucien qui a la parole.
Oui, qui dresse dans un délai de 15 jours suivant leur transmission les observations éventuelles au bureau de l'Assemblée nationale.
Honorable Lucien, est-ce qu'on peut revenir à la problématique, n'est-ce pas? Vous avez suivi le professeur Bob Kabamba qui
oui.
a posé, parmi les problèmes qu'il a soulevés, il y a ce problème d'opportunité.
Oui.
Est-ce que la proposition que vous faites, elle est opportune?
Ma proposition est opportune. Pourquoi je l'ai dit? Vous avez suivi tous les débats sur la demande de l'eau de la rivière Oubangui vers le lac Tchad. C'est le transfert
pour alimenter le lac Tchad.
Pour alimenter le lac Tchad. C'est déjà le territoire national qu'on va donner parce que les eaux font partie du territoire national. Et c'est un dossier qui est sur la table. Pour en arriver, pour accepter de donner cette eau, il faut recourir au référendum. C'est déjà une opportunité pour cette loi. Parce que c'est une question qui est sur la table, qu'on doit régler, tout le monde en parle, et les Congolais doivent se prononcer pour donner ou ne pas donner cette eau. C'est déjà notre souveraineté qui doit être partagée. Et nous disons, quand mon ami, dit, mon collègue et grand frère Moutombe, dit qu'il n'y a pas d'opportunité, dit qu'il y a révision constitutionnelle, je ne sais pas comprendre comment mon collègue et mon grand frère peut penser que avoir une loi qui organise le référendum, c'est organiser les glissements. Les glissements, le terme glissement, me dépasse. Est-ce que glisser, ce n'est pas organiser les élections? Glisser, c'est organiser les élections? Glisser, c'est organiser le référendum? Je ne sais pas ce terme-là, comment on le prend à tort et à travers. L'unique problème qu'il y a, notre opposition n'est pas une opposition sérieuse. Dans un débat démocratique, là où il faut avancer les idées, là où il faut avancer les arguments, ce sont les sentiments qui priment. on est en train d'instrumentaliser la population Itulma. J'ai avec moi la proposition.
Vous avez suivi le professeur Bokwabamba qui rappelle que par rapport à la question sur la révision de la Constitution, c'est une question qui est déjà traitée par la Constitution, mais s'il faut qu'il y ait une autre une loi, n'est-ce pas, sur l'organisation des référendums, cela veut dire, vous voudrez dire que cela viserait les changements de la Constitution.
Là, c'est changer la République. Quand on va mettre la constitution que nous avons à l'écart pour avoir une autre constitution, là on change de régime.
N'est-ce mais pas ici, ce que vous visez ?
Non, dans ma proposition de loi, j'ai le cadre. J'ai déterminé les champs d'application du référendum que moi je propose. Nous avons déjà l'article 2, monsieur le journaliste. L'article 2 dit ceci. Les recours au référendum ne se limitent qu'au seul cas ci après. Ce sont les cas déterminés déjà par la constitution en vigueur. Le transfert de la capitale dans un autre endroit du pays.
Vous l'avez dit.
Oui, ouais. Ça y est là. Deuxième élément, la cession, l'échange ou la jonction du territoire.
Tout ça, vous l'avez
réglé. Ouais. Non, le troisième point, la révision constitutionnelle, parce que ce sont les trois
cas réglés. Qui est déjà réglé par la Constitution.
Oui, oui. On peut recourir au référendum. C'est comme ça que nous avons tracé les cadres.
Merci, Lequin. Honorable Fabien Moutombe, il y a une question qui vous est adressée. Hein, et bien, des pouvoirs au-dessus de vous. Vous suivez d'abord la question, après vous allez réagir.
Robert Bahomé de Bukavu, au sud de Kiev. Je pense que la position de l'opposition par rapport à l'initiative de la majorité sur le projet de loi sur le référendum en RDC est défendable. Cependant, il y a lieu de se demander s'il reste vrai que toute initiative de majorité est désormais aux yeux de l'opposition l'objet de glissement du mandat du président de la République. Sinon, la majorité risque de n'avoir jamais la chance ni l'opportunité de se prononcer chaque fois facilement sur les questions politiques du pays, à moins que ce ne soit par forcing ou par imposition.
Oui, honorable Fabien Moutombe. Vous répondez d'abord à la question des Bahomé, après vous allez réagir au propos des
Je pense que mon compatriote Robert, dans la première partie de son intervention, il a pleinement raison. Ici, nous sommes dans un cas où la Constitution elle-même prévoit à quel moment
les mécanismes de sa révision.
À quel moment est-ce qu'on peut aller au référendum? Trois points. Le premier point, capital, le changement des capitales. Deuxième point, lorsqu'on voudrait céder une partie du territoire. Le troisième point, c'est la révision constitutionnelle. Donc, nos amis ici, ils ont mis le poison dans la queue. Le poison est dans la queue. Je voudrais un peu revenir à l'article 218. La révision n'est définitive que si le projet ou proposition ou pétition est approuvé par référendum sur convocation du président de la République. C'est là où il y a le hic. Mais je voudrais dire à mon frère Robert qu'il y a plusieurs propositions de loi que nous soutenons même. Mais ici, nous sommes devant un cas où les différentes démarches amorcées par la majorité. D'abord, le recensement qu'ils ont voulu faire en janvier 2015, la création de l'ONIP. Vous avez vu même maintenant où les ministres vous disent Kabila nan ototondiote, où les ministres vous disent Kabila désire. C'est dans cette perspective.
Donc nous sommes dans un contexte qui porte à cette décision, comme l'a dit le professeur Bokwabamba.
Si c'est dans cette perspective, là ils trouveront le peuple congolais et l'opposition sur leur chemin.
Honorable Fabien Moutombe, à force de soupçonner, n'est-ce pas, toutes les initiatives qui sont prises par la majorité, vous ne pensez pas que vous risquez même de rejeter certaines initiatives qui sont pertinentes, qui sont importantes pour le fonctionnement des institutions du pays?
Puisque nous avons découvert leur stratégie. La stratégie de départ, c'était de venir avec les projets de loi. C'est-à-dire, les projets qui viennent, les lois qui viennent au gouvernement. Et là, ils ont échoué complètement. Je ne sais pas si vous pouvez vous rappeler. Maintenant, ils ont changé de stratégie. Ils initient des propositions de loi et ils viennent avec ça au Parlement de telle sorte que nous puissions voir que c'est l'émanation des députés. Mais nous avons découvert la stratégie. À partir du moment où la stratégie est découverte, en mettant l'accent sur l'opportunité, Nous pouvons monter, nous pouvons descendre. Il n'y a aujourd'hui aucune opportunité. Sauf si vous voulez voir le sang des Congolais couler.
C'est ce qu'on ne souhaite pas.
Oui, ce que vous avez vu vous-même.
C'est ce qu'on ne souhaite pas.
Vous avez vu vous-même. Et même mon co-débatteur, je crois qu'il a remarqué ça.
Merci,
honorable. Ce sont des lettres réputées secrètes à leur niveau.
Merci, professeur Bob Kabamba.
Voyez, les lettres
professeur Kabamba, nous avons
sont
une question.
Sur la place publique.
Professeur Kabamba, nous avons une question qui vous est adressée, elle vient de Kisangani.
Moi, c'est Pepe Lisungi Botomoito. Je vous appelle depuis Kisangani, dans la province de la Tchopo. Je me demande, est-ce que tout ce que nous sommes en train de vivre actuellement en RDC, c'est le réveil de la démocratie ou le retour de la dictature en gestation? Démembrement, référendum et commissaires spéciaux, est-ce que c'est les priorités actuellement dans le pays? Pourquoi les initiateurs de cette loi ne peuvent pas obliger, en tant que législateurs, au gouvernement de mettre les moyens à la Commission électorale nationale indépendante pour l'organisation des élections dans les délais en RDC?
Oui, professeur Bokawamba.
Je remercie l'auditeur par rapport à sa question. Et là, ça rejoint la question de l'opportunité, effectivement, qui est posée. C'est-à-dire que simplement, à nouveau, il y a une série de confusions liées à cette question d'opportunité. C'est-à-dire, la pertinence, et moi je pense que la pertinence est liée. Mais il faut ajouter, je demanderai à l'honorable Robert, qui est l'initiateur de cette proposition, d'ajouter les questions sociales. Il doit ajouter les questions éthiques, les questions, par exemple, les questions d'euthanasie. Il faut qu'il y ait un encadrement par rapport à toutes ces questions-là qui doivent être encadrées. Moi, je pense que la pertinence est là. C'est la question de l'opportunité qui se pose. Et je voudrais aussi rajouter en disant, si on explique en disant que cette loi référendaire ne concerne pas uniquement 202, 214 ou 218 ou l'article 2, concerne aussi les questions de société. Est-ce que dans notre société congolaise, on est prêt à accepter le mariage homosexuel? Est-ce qu'on est prêt à accepter l'euthanasie? Ça veut dire que quelqu'un qui est en fin de vie, on peut lui ôter la vie, etc. Toute une série de questions qui sont des questions d'éthique. Est-ce qu'on autorise de pouvoir avoir assistance à ce qu'on appelle la procréation assistée ou pas, etc. Toute une série de questions importantes de mon point de vue, ce qui nécessite de pouvoir consulter la population. Mais je pourrais proposer à l'honorable de pouvoir aller au-delà uniquement des questions qui sont prévues au niveau des différents articles qu'il a mentionné, de les élargir aux questions sociales ainsi qu'aux questions éthiques. Et la question de l'auditeur vient confirmer la question de l'opportunité. Le faire maintenant fait en sorte qu'on commence à mélanger les choses. Une loi référendaire qui pourrait être adoptée par le Parlement ne pourrait l'adopter que sur base de la Constitution actuelle. Si on change de Constitution, il faudra une nouvelle loi pour pouvoir encadrer la nouvelle adoption de la Constitution. Tout comme on a eu la loi référendaire de 2005 par rapport à la Constitution de 2006, on aura aussi une autre loi référendaire par rapport à la nouvelle Constitution. C'est là qu'il y a confusion et c'est pour ça que je pose la question de l'opportunité qui amène justement une mauvaise lecture. Et si cette proposition était arrivée il y a 3 ans, je ne doute pas un seul instant que tout le monde aurait applaudi et que même l'opposition, comme je l'ai répété, aurait apporté son soutien. Et qu'en le faisant maintenant, et même l'auteur de la proposition, donc l'honorable Robert, le confirme en disant qu'il a donné sa proposition il y a plusieurs mois. Alors pourquoi maintenant ça revient uniquement maintenant à l'agenda de la conférence de présidents? Et là, effectivement, l'opposition ne peut que sauter sur l'occasion et de dire, ben voilà, il y a un agenda caché par rapport à ça. Et c'est pour ça que je pose la question de l'opportunité.
Oui, professeur Bob Kabamba, à votre avis, au-delà de tout ce qui est dit, quels pourraient être les mérites, n'est-ce pas, de cette proposition de loi?
Le mérite de la proposition de loi, ce serait de pouvoir justement encadrer, d'avoir une base juridique au-delà de la Constitution par rapport à d'autres questions hors de la loi, hors de la question liée à la révision de la Constitution, puisque la Constitution a déjà prévu le référendum. C'est par rapport aux autres points. Et si l'honorable, en tout cas l'honorable Robert, peut élargir, c'est ça que j'insiste beaucoup, élargir au-delà uniquement de ces questions politiques, qu'il ajoute les questions sociales pour pouvoir dédramatiser et dépolitiser une proposition de loi qui a sa pertinence et qui a son importance dans la société congolaise.
Merci, honorable Luquin. Que répondez-vous au professeur Bob Kabamba? Il faut élargir, n'est-ce pas, à d'autres matières, notamment les matières qui touchent au social?
Oui, élargir, oui, mais nous avons quand même un cadre constitutionnel. La siège de la matière, pour qu'une loi soit acceptée, soit déclarée recevable par le Parlement, cette loi doit avoir son fondement dans la Constitution. C'est la première condition de recevabilité. Élargir, oui, mais il faut que la matière soit prévue par les constituants pour faire l'objet du référendum. C'est pourquoi les constituants de 2006 a énuméré limitativement trois cas. Le premier cas, le transfert de la capitale. Le deuxième cas, la cession, l'échange ou la jonction. Et le dernier cas, la révision constitutionnelle. Il n'y a que ces trois cas qui doivent faire l'objet du référendum dans notre pays. Dès que vous élargissez les champs d'application, vous amenez les députés à arrêter ça pour dire que votre proposition est inconstitutionnelle. On va rejeter, on ne doit pas recevoir ça. C'est pourquoi nous nous limitons sur les cas prévus par la Constitution. Quand on dit qu'il y a tout ce temps, on était où? Prendre une loi, rédiger une loi, ce n'est pas de la même affaire. Nous sommes venus au Parlement en 2012. Il fallait nous enquérir de l'expérience du Parlement, et participer dans les travaux des commissions, examiner les lois des autres pour avoir une idée de ce qui s'est fait pour élaborer une loi.
Non, par rapport au débat que suscite votre proposition de loi, à votre avis, qu'est-ce qu'il faut faire pour harmoniser les points de vue?
Il n'y a ni même pas, c'est parce que nos amis de l'opposition...
Ça sera sous votre conclusion, pratiquement à la fin de l'émission.
Les amis de l'opposition utilisent la politique d'intoxication. Ils sont en train de propager le mensonge. J'ai avec moi cette proposition de loi. Je voulais que mon collègue de gauche puisse me dire quel est l'article dangereux dans cette proposition de loi. Quel est l'article qui amènerait le pays à la révision constitutionnelle au glissement?
Dans un point de presse ce lundi, le parti En Vol de Délices et Sanga s'étonne que le président de l'Assemblée nationale n'ait pas fait mention de cette proposition de loi référendaire au moment du débat et adoption du calendrier des matières devant être débattues au cours de la session de la Chambre basse, alors que cette proposition de loi se trouve déjà au niveau du gouvernement, ce qui est une, selon la personne qui a envoyé la réaction, ce qui est une violation de l'article 139 du règlement d'ordre intérieur de l'Assemblée nationale. Comment vous expliquez cela?
Je voulais dire ceci à mon collègue Maître Sesanga. La procédure pour que la loi soit débattue dans la conférence des chefs et dans la conférence des présidents, il faut que le gouvernement donne ses avis. C'est à ce moment-là, quand la proposition est en état d'être présentée, qu'on doit convoquer pour l'inscrire au calendrier. La proposition
en discussion... Et ça se fait dans la discussion totale?
Non, ça se fait dans la discussion totale. Merci. La proposition en question n'est même pas concernée par la session ici.
Merci, honorable Fabien Moutombe. Votre conclusion, comment faire pour harmoniser les points de vue par rapport
ce qui a lieu de faire, de loi? Nos amis de la majorité, mon co-débatteur ici présent, de mèche avec le pouvoir de Kinshasa, ils doivent retirer cette proposition de loi.
Même pas hier soir, à l'examen de cette proposition de loi.
Cette proposition porte des germes qui peuvent nous amener à un bain de sang. Et alors là, qu'est-ce que nous remarquons? Nous constatons aussi que parmi les trois problèmes qui soutiennent l'élaboration, amener le Congolais au référendum, il y a changement de capitale, il a cédé une partie, mais si vous analysez la situation, les deux points ici n'ont rien à voir avec l'actualité d'aujourd'hui. Le venin est dans la queue. Et à partir du moment où le peuple congolais a découvert à quel niveau se situe le venin, le peuple congolais va le bloquer. De la même manière que nous avons bloqué Boshab au mois de janvier 2005, c'est de cette même manière que nous allons le bloquer.
Merci, honorable.
Tenons bon, le peuple vaincra.
Merci, honorable. Professeur Bokabamba, votre conclusion.
Merci, mais je dois réinsister auprès de l'honorable Robert que
la
consultation populaire n'est pas anticonstitutionnelle. Lorsque l'on veut consulter la population sur des questions éthiques, la Constitution elle-même accepte que l'on puisse arriver à avoir des processus de pouvoir avoir l'avis de la population sur toute une série de sujets. Ça ne veut pas nécessairement dire que la consultation populaire ne va dire référendum et référendum contrainte par rapport à la loi. Et donc c'est une bonne proposition. Il faut consulter la population sur des questions précises, sur des questions qui la concernent.
Merci.
Sur des questions sur son avenir, il faut l'encadrer et le sortir malheureusement du contexte politique qui est le contexte actuel.
Merci, professeur Bokabamba. Merci, c'est la fin de cette émission. Merci à Hippolyte Kapanga qui était à la technique, à Alain Hirung Berry, Franklin Luchaka à la réalisation sous la supervision de Pelle Kipela Mondo, à la présentation Guy Maté. Merci et bon suite des programmes sur Radio Okapi.